Et les midis reprennent la route. Bienvenue à vous. À 13h, je recevrai l'auteur et performeur Sébastien Barrier. Mais tout de suite, je retrouve Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La 47e édition des Transmusicales de Rennes a commencé hier et se poursuit jusqu'au 7 décembre. Alors le festival musical, qui a pour réputation d'annoncer les tendances à venir, présente cette année près de 80 artistes venant de 40 pays. Et une attention particulière a été portée dans la programmation de nouvelles rappeuses, de rappeuses d'une nouvelle génération, et c'est le dossier du Point Culture du jour. Benjamin Veil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous vous intéressez particulièrement au rap féminin. Alors dans Omic Citoyenne, puis À qui profite le sale, ce sont vos précédents ouvrages, vous montrez comment le rap cristallise sexisme, racisme et capitalisme. Si on zoome sur la génération de rappeuses programmées cette année au Transmusical, qu'est-ce que ces voix disent de l'état réel des rapports de genre dans le rap en 2025?
Oula, alors qu'est-ce que ces voix, c'est-à-dire les voix des rappeuses,
oui.
On est bien d'accord. Les rappeuses aujourd'hui sont très présentes à plein d'endroits. Il y a une vraie scène rap d'artistes féminines. Personnellement, je suis pas très fan de l'expression rap féminin, puisque en français, la grammaire signifie que quand on a besoin de mettre un adjectif après le nom, c'est que le nom est exclusif de l'adjectif. Donc, comme quand on dit un poète noir, c'est quelque part un peu raciste, puisque on pourrait supposer que finalement la poésie est un truc de blanc. Et ben, de la même manière, rap féminin, ça pose des questions. Parce que finalement, des femmes qui font du rap, il y en a toujours eu. C'est pas nouveau, contrairement à ce que justement le narratif de 2025 veut nous faire croire.
Et alors, comment on pourrait dire, quelle serait la bonne expression?
J'ai envie de dire des artistes rap qui sont des femmes. Moi, c'est pour ça que je parle d'artistes rap. Déjà parce que pour cesser l'opposition entre artistes et rappeurs et rappeuses, et puis aussi parce que finalement ça permet de sortir de la question du genre, et quel que soit notre genre, qu'on soit féminin ou masculin, le rap n'est pas exclusif de l'un de ces deux genres.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que en fait il y a un narratif en 2025 qui dit regardez, il y a une nouvelle scène rap féminine, et en fait ce que vous dites c'est qu'en fait c'est faux, qu'il y en a toujours eu une, et que c'est un nouveau nom qu'on pose sur quelque chose qui existe déjà, quoi.
Alors, c'est pas forcément qu'un nouveau nom, parce qu'il existait déjà aussi à l'époque, mais dans les années 90, par exemple, en 1996, il y a une compile qui s'appelle Label, qui est sortie avec 12 artistes femmes qui rappent, j'ai envie de dire, comme peuvent le faire des hommes aussi. Donc, je pense par exemple à des femmes comme Bams, à Princesse Agnès, à Sista Shefa, à Stestros, Lady Lesti, énormément de femmes qui étaient présentes finalement dans la sphère rap des années 90. Or, elles ont été complètement invisibilisées par toutes les personnes qui ont construit, j'ai envie de dire, l'histoire du rap, qui s'est construit notamment avec l'industrie. C'est un des objets justement du livre À qui profite le sale, qui montre que finalement la question féminine était, le sexisme était déjà présent dans les années 90, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, mais en tout cas les femmes étaient beaucoup plus présentes que ce qu'on essaye de le construire et de le montrer. Il y avait même plus de femmes dans le milieu hip-hop finalement qu'il y en avait dans le milieu punk ou rock à l'époque.
Et est-ce que les transmusicales jouent toujours ce rôle de défricheur selon vous, justement pour ces artistes rappeuses? Est-ce que ce type de festival fonctionne comme un accélérateur de visibilité et même d'élargissement d'un réseau professionnel par exemple?
Tous les festivals permettent justement de pouvoir avoir un accès à une scène différente, à un public potentiellement différent, puisque les personnes qui se rendent à un festival, et notamment les transmusicales, c'est pour de la découverte. Et quand on va dans un festival, on y va éventuellement pour un ou deux artistes de la tête d'affiche, mais on peut être amené à découvrir des nouvelles têtes, justement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des programmations qui sont des programmations qui ne soient pas des programmations exclusivement masculines, par exemple. Mais là-dedans, il faut aussi être très vigilant à ce que les femmes ne deviennent pas non plus des femmes prétextes, le fameux syndrome de la Schtroumpfette, justement, qui amène à ce qu'on mette une femme dans la line-up pour justifier d'une forme d'ouverture, de mixité, voire de parité. Enfin, parité, ça serait déjà un gros mot, pardon. Mais en tout cas, d'une forme de mixité et de diversité de genre. Alors que, en fait, on en a mis une au hasard parce qu'il en fallait une. Et qu'on va placer, par exemple, à 18h ou à 16h quand il n'y a pas encore grand monde, et jamais sur les grosses scènes, aux horaires où il y a le plus de monde qui sont présents. Donc ça, c'est aussi des choses à réfléchir. Ça suffit pas d'avoir des femmes sur la line-up. En fait, c'est où est-ce qu'on les met, comment on les met et comment on les promotionne.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, justement, les femmes sont de moins en moins des prétextes, mais qu'on les programme pour écouter leur musique?
Ça commence, mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de festivals qui vont mettre quelques femmes plutôt pour justement justifier d'une forme de parité ou d'ouverture au genre féminin, mais pas encore sur de la tête d'affiche, par exemple. Je vois très peu de festivals qui mettent en tête d'affiche des femmes, à part quand c'est des festivals spécifiquement et 100% féminins.
Est-ce qu'il y a, selon vous, dans les artistes rap aujourd'hui, une censure ou une auto-censure, j'allais dire, concernant les textes, concernant ce qu'elles représentent, ou est-ce que vous avez l'impression qu'elles peuvent créer en toute liberté ?
Dans l'absolu, elles peuvent créer en toute liberté, d'autant que la base rapologique, c'est justement de pouvoir évoquer son quotidien et sa réalité. C'est la base de l'ADN du rap. Ceci étant, ça, c'est le côté rap au sens culture et passion. À partir du moment où on en fait un métier et que ça rentre dans l'industrie, l'industrie a des codes, par définition. Et c'est vrai que les femmes sont invitées régulièrement à être ou bien dans des postures qui ne dérangent pas trop le masculin ou qui, au contraire, correspondent à ces clichés. Ou bien sur un versant complètement aseptisé de ce qu'on appelle la petite sœur, ou bien sur un versant plutôt très sexualisé pour justement rentrer dans les clichés que une femme, a priori, j'ai envie de dire, qui fait du rap, ne pourrait que s'hypersexualiser, comme on l'entend beaucoup. Les artistes en tant que telles, elles font bien comme elles veulent. Et elles font exactement ce qu'elles veulent. Le rap est un espace de liberté par définition.
Mais pour rentrer dans l'industrie, elles doivent se plier à certains codes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
C'est-à-dire que pour rentrer dans les codes et dans les cases de l'industrie, donc pour être signée en label, pour être promotionnée par des médias, il y a un moment où elles doivent rentrer plus ou moins dans certains codes. Mais c'est là où, justement, ça doit nous interroger, non pas sur le rap en tant que tel, mais sur l'industrie. Et puis, moi, j'ai une deuxième question, c'est pourquoi on s'intéresse toujours au rap sur la question, justement, de l'ouverture au féminin et pas aux autres domaines.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les autres domaines musicaux, par exemple le classique, est très peu ouvert, ou le jazz est très peu ouvert aux femmes.
Et qu'est-ce que, du coup, ça sous-entend, le fait qu'on s'intéresse particulièrement au rap sur cette ouverture au féminin ?
À mon sens, c'est ce que j'appelle un biais raciste.
C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer ?
Étant donné que le rap est quand même très souvent porté par des personnes non blanches, étonnamment, c'est essentiellement dans ces populations qu'on va voir du sexisme, de la misogynie ou des représentations problématiques, alors qu'en fait, on les retrouve dans toute l'industrie musicale et que ça ne remet absolument pas en cause l'industrie en tant que telle. C'est pas l'industrie qu'on remet en cause, c'est le rap qu'on va remettre en cause à cet endroit-là. De la même manière qu'on voit bien que la culture du viol est très présente dans le cinéma français, on en a eu ces trois dernières années énormément d'affaires, personne n'a jamais remis en cause le cinéma en tant que discipline.
Je comprends bien. Merci beaucoup, Benjamin Veil, pour toutes ces informations.
Merci à vous, Marie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une nouvelle polémique autour du film Sacré-Cœur.
Après le refus de la RATP et de la SNCF d'exposer des affiches du film dans ses gares, après la tentative du maire de Marseille de le déprogrammer d'un cinéma de sa ville, c'est à présent dans les Hauts-de-Seine qu'une nouvelle polémique a émergé autour de Sacré-Cœur, ce film réalisé par les Apous Gunel, qui raconte l'histoire de Sainte Marguerite Marie, est accusée de prosélytisme et de mélanger la question identitaire et celle du religieux. C'est pour cette raison que le directeur du cinéma municipal de Clichy-la-Garenne a présenté sa démission après la demande du maire de le programmer dans ses salles. Le maire justifie sa décision par le succès du film qui a déjà attiré 450 000 spectateurs en France. L'opposition municipale proteste contre cette décision en considérant que ce n'est pas la thématique religieuse du film qui dérange, mais plutôt son aspect politique à suivre.
La littérature, à présent, une tribune parue hier dans le Nouvel Obs, alerte contre les pressions subies par les libraires.
Signée par plus de 400 libraires, éditeurs et auteurs, cette tribune intitulée « Vitrine brisée, démocratie fissurée » tire la sonnette d'alarme sur les tensions et menaces subies par le monde du livre dans le contexte tendu du conflit israélo-palestinien. Elle énumère ainsi la longue liste des librairies qui ont été victimes de dégradations, d'intimidations, de pressions ou de cyberharcèlement ces derniers mois. Les signataires dénoncent ainsi ces attaques qui mettent en lumière l'altération des conditions du débat démocratique et de la liberté d'expression.
Et pour finir, Marie, la Art Review Power List a été dévoilée hier.
Oui, dressée chaque année par le magazine britannique Art Review, cette liste propose un classement des personnalités les plus influentes dans le monde de l'art. Et pour la première fois, c'est un artiste africain, le Ghanéen Ibrahim Mahama, qui arrive à la première place de cette liste. Cet artiste de 37 ans qui vit et travaille à Accra s'est fait connaître à l'international. Lors de la Biennale de Venise en 2015, il propose des installations gigantesques qui interrogent les modes de consommation de notre époque. en agglomérant notamment des objets du quotidien. Cette récompense confirme la place de plus en plus importante du Ghana sur le marché de l'art, alors que ces dernières années, plusieurs artistes du pays ont reçu des prix ou ont été exposés dans de grandes institutions. Le premier français, c'est Bernard Arnault. Il est classé à la 56e place et puis François Pinault à la 58e.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.